else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur Radio Occitanie. Aujourd'hui, je reçois Hamid Berrioni. Bonjour Hamid.
Bonjour Claire.
Voilà, qui va nous parler de tout ce qu'il fait, et il fait beaucoup de choses, comédien, auteur, conteur, et j'en oublie certainement, donc on aura une demi-heure à passer avec lui pour qu'il nous parle de tout ça. En attendant, comme à l'accoutumée, je vais vous dire quelques petites infos. Donc tout d'abord, à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, l'heure du conte est toujours à l'affiche, tous les mercredis à 11h pour les enfants de 2 à 4 ans, et à 15h pour les plus grands à partir de 5 ans. L'accès est libre et gratuit, c'est sans inscription, c'est au rez-de-jardin de la médiathèque. Je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement, 05 62 27 64 91, 05 62 27 64 91, et l'heure du compte, c'est aussi pendant les vacances scolaires, c'est toute l'année, donc n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps pendant les vacances avec vos petits bouts de choux, n'hésitez pas à les emmener à l'heure du compte. J'y suis allée encore hier et c'est vraiment très agréable. Ensuite, je passe au salon Priva, 14 rue des Arts, qui va recevoir le mardi 7 mars à 18h15 précise, Monsieur Tahar Benjelloun, que tout le monde connaît, bien sûr, et pour son dernier livre qui s'intitule « Partir » et qui est édité chez Gallimard. L'auteur nous entraîne cette fois-ci à la suite de ses personnages pleins du désir de quitter le Maroc et pour un monde meilleur, croit-il, mais rien n'est moins sûr et le destin de ceux et celles qui évoluent dans ce livre vous resteront assez longtemps en mémoire. Donc je vous invite à venir découvrir ce livre et Tahar Benjelloun le mardi 7 mars à 18h15 au salon Priva, 14 rue des Arts. Ensuite, le 8 mars, vous le savez tous, c'est la fête des femmes. Donc la librairie de la Renaissance invite 4 femmes pour cette occasion, qui sont Mireille Arpaillange, Marianne Caron-Lelier, Frédérique Martin, que nous connaissons puisqu'elle est déjà venue à Page et elle va revenir, voilà, c'est un scoop, au mois de mars, le 23 exactement, et ainsi que Nicole Zimmermann. Donc ces 4 femmes sont accueillies à la librairie de la Renaissance le 8 mars, d'une façon originale et en sortant des sentiers battus, pour réfléchir, agir ensemble pour se libérer des aliénations et des discriminations, suppose de s'ouvrir à toutes les expériences de femmes, à leurs rêves, leurs envies, leurs créations. Donc c'est à 20h30, le 8 mars, à la librairie au Forum de la Renaissance, qui est 1 allée Marc Saint-Saëns à Toulouse, au métro Basso-Cambo. Donc elles présenteront chacune leur dernier livre. Donc pour Mireille Arpaillange, c'est Le Minotier du Céou. Pour Marianne Caron-Lelier, c'est L'accouchement sans douleur. Pour Frédéric Martin, c'est Papier du sang. Et pour Nicole Zimmermann, c'est Quai des Oranges, donc la librairie de la Renaissance. Un numéro de téléphone pour tout renseignement, puisque l'accès, bien sûr, est gratuit et sans inscription. Le 05 61 44 16 32. Voilà, pour le 8 mars, le jour de la fête des femmes. Je terminerai par cette petite, une avant-dernière info avec les jeudis du café de philosophie au café de l'Esquille, 63 rue du Thor, pour le jeudi 9 mars. Donc comme vous le savez, le deuxième jeudi du mois, le thème est déjà défini, c'est celui-ci. La liberté d'opinion est-elle critère de démocratie? L'opinion aurait pour origine la croyance, le dogme, tandis que la raison serait issue du discours, de la science. La liberté serait-ce alors choisir une conviction ou en répondre? La démocratie se fonderait-elle sur la doxa ou le logos? Donc si ce sujet vous intéresse, rejoignez donc l'équipe du Café de l'Esquille au 63 rue du Thor, numéro de téléphone 05 61 23 42 46. Suisse. C'est présidé par Monsieur Jean-Philippe Blanchard et c'est ouvert à tous et les consommations sont au prix habituel. Je termine les infos avec une invitation à une rencontre débat pour la libération de l'écrivain Jean-Marc Rouillant, avec la participation de l'écrivain Progresso Marin, que je recevrai lui aussi le 16 mars à Page, et de divers responsables d'associations de lutte pour les libertés. Donc c'est le jeudi 23 février, c'est-à-dire aujourd'hui, à 20h30, au Forum de la Renaissance, toujours cette librairie très très active, 1 allée Marc Saint-Saëns à Toulouse. Donc ce soir, 20h30, si le sujet vous intéresse, Jean-Marc Rouillant avec la participation de Progresso Marin.
Page à page, Claire Ambille.
Je me tourne maintenant vers Hamid Berrioni, mon invité de ce jour, parce qu'il y a évidemment beaucoup beaucoup de choses à dire sur Hamid. Alors Hamid, déjà vous êtes plein de choses, vous êtes bilingue, déjà on va le dire, vous êtes marocain par vos deux parents, donc vous parlez à la fois le français et l'arabe.
Et oui, l'arabe et puis le français.
Voilà,
Le français et l'arabe, oui.
Tout à fait, voilà les deux. Vous vivez actuellement à Castres depuis 6 ans.
Oui, ce n'est pas une lacune.
Ah non, au contraire, c'est très bien Castres, c'est très bien. Avant, vous avez vécu à Saint-Étienne, c'est très bien aussi Saint-Étienne.
Oui, la ville du charbon. Oui.
Voilà, et à Paris, la capitale.
17 ans à Paris.
Voilà. Vous avez fait du mime, de l'art dramatique, donc à Saint-Étienne et à Paris, puisque vous êtes comédien. Vous écrivez également.
Oui, comédien. Je pense que la rencontre avec des gens m'a emmené au théâtre et j'en doutais beaucoup de cette passion qui pouvait naître en moi. Mais un oncle est passé par là il y a quelques années et les choses sont revenues et je me suis retrouvé à faire du théâtre et du théâtre à faire une formation de mime qui m'a beaucoup intéressé, oui.
Et donc l'écriture, vous êtes venu donc l'écriture avec inspiration un peu orientale.
Ben, on ne parle que de ses origines de toute façon. Après,
on ne parle bien voilà que de
ce qu'on
connaît bien,
et puis
oui.
Ce qui se met en nous, puis après on se projette dans l'avenir et à faire le métissage. C'est-à-dire la langue française me plaît énormément, j'aime, et la langue arabe malheureusement se perd, mais je m'y accroche. et c'est comme une langue, c'est comme un jardin, il faut le cultiver, il faut le travailler. Et j'ai commencé à écrire parce que, en France, à l'époque, dans les années 81, 82, donc, on ne me donnait pas beaucoup de travail. Dans le sens où, quand on est d'ailleurs, on n'a pas obligatoirement la possibilité de jouer.
Oui, c'est toujours, on se rend compte que d'année en année, c'est toujours un peu la même problématique qui revient, quoi.
Malheureusement.
Tout à fait.
Donc, mais il y a évolution.
Oui, mais il faut y croire. De toute façon. Donc, avec une première pièce, justement, en 1984, intitulé « Les eaux noires de la nuit ».
Et oui, vous voyez le titre.
Hein. Oui, c'est noir.
c'est noir, mais dans le noir, il y a de l'espoir.
Il y a la lumière, et puis au bout du noir, il y a toujours, au bout du tunnel, il y a la lumière.
Absolument, et je crois que oui, c'est une pièce sur le vieillissement d'un artiste, peintre, et qui rencontre sa fin, mais une fin dans la lumière.
D'accord. Et donc, on peut souligner que cette première pièce de théâtre que vous avez écrite a obtenu le prix du théâtre à une voix par la Société des auteurs dramatiques et qu'elle a été lue en public à Paris.
Oui, pour moi, c'était une première extraordinaire.
Oui, c'est...
Un jeune auteur, tout de suite lu, diffusé sur les ondes, lu au théâtre Essaillon, à l'époque, derrière Beaubourg,
oui,
en Paris,
très...
et
oui,
avec mon nom sur les petits... Non, c'était très, très joyeux, oui.
Oui, bah c'est... Et donc du coup, vous avez écrit une autre pièce qui s'intitule « Les ombres bleues ». Alors là, c'est plus coloré.
J'ai changé de couleur. Vous voyez, après le noir, il y a du bleu.
Oui,
hein,
oui,
on
oui.
parlait de lumière. Et oui, c'est un peuple, une histoire d'un peuple qui vit sous terre, dominé par celui qui vit sur la terre.
Okay. Rapport de dominé, dominant, de rapport de lutte de pouvoir.
Oui, l'enfer et le diable. Enfin, j'allais dire l'enfer et le diable, l'enfer et le paradis,
s'il
en existe.
Oui.
Mais oui, la lumière et l'obscurité.
Mmh. Oui, toujours cette...
Le yin et le yang,
voilà.
Comme on dit. Hein. Donc, oui,
cette opposition entre
les
deux...
contraires.
Les contraires. Et ça, comme vous aimeriez cette pièce, donc qui est Les Ombres Bleues, vous aimeriez, vous avez comme projet ou comme rêve ou comme envie de peut-être un jour
De la réaliser au cinéma. C'est-à-dire que je vois le 7e art peut lui donner cette dimension de dessous et de dessus, de ce combat entre les gens du dessus et les gens
du
dessous.
Qui est toujours actuel de toute façon. C'est
j'ai entendu parler de la France d'en bas et la France d'en haut. Alors, c'est pas la thématique du tout, mais je crois que l'esprit et le corps se battent pour trouver l'harmonie.
Ben, j'espère que votre projet aboutira, Hamid.
Inch'Allah.
Alors ensuite, vous avez écrit donc l'arbre du désert, dont vous nous lirez un petit passage tout à l'heure. Donc c'est un conte, mais au départ c'est une pièce de théâtre pour tout public, hein, qui a été jouée au théâtre à l'Institut du Monde Arabe à Paris, et qui est inspirée d'une histoire vraie qui a été racontée par votre maman.
Oui, ma mère m'a raconté quand j'étais les voir à Saint-Étienne pour leur dire « Mais pourquoi vous ne m'avez jamais raconté d'histoire, de conte ?» Parce que j'ai un ami conteur et moi je me bagarre avec le théâtre pour trouver ma place dans le champ culturel français. Et elle m'a dit « Mais si, je t'ai raconté beaucoup d'histoires. » Alors elle s'est mise à raconter et ma mémoire est revenue. Donc je me suis souvenu de tout ce que vous m'avez transmis.
Vous aviez occulté en fait.
Complètement. Et elle m'a raconté ce souvenir qui est vrai. C'est un jour dans l'Atlas, le Moyen Atlas, dans une vaste prairie, un homme et une femme cheminent vers un arbre parce qu'ils cherchaient du bois pour se réchauffer et faire cuire leur pain. Et cet homme, c'est mon père et cette femme, c'est ma mère.
D'accord.
Et quand ils ont abattu cet arbre, ben, l'arbre a crié.
Donc un arbre vivant, un arbre habité.
Et
l'arbre du désert, dont vous nous direz un petit passage tout à l'heure et on en parlera un petit peu plus à la fin. Donc il a obtenu cette pièce, donc au départ c'est une pièce de théâtre, elle a obtenu le premier prix radiophonique international par Radio France.
France Internationale, RFI,
voilà,
oui.
En 1990, sur concours, hein, vous avez participé à un concours et vous avez été...
Ouais, j'avais fait un premier concours 2 ans avant avec l'édition de l'Harmattan,
qui naissait
à l'époque. Et j'ai un concours poésie, mais bon, je n'ai pas gagné. J'ai fini 3e, il fallait que le premier. Et puis la pièce de théâtre, eh bien, elle a plu. Et j'ai gagné le premier prix, oui.
Et donc, c'était diffusé dans 25 pays d'Afrique et d'Océanie.
Oui, tous les pays francophones, oui.
Et l'enregistrement, alors, voilà, petite précision, l'enregistrement donc de ce conte, enfin pièce de théâtre, est d'ailleurs à la bibliothèque François Mitterrand à Paris.
Eh oui, un auteur marocain à la bibliothèque François Mitterrand.
C'est super, moi je trouve. Et donc ce conte a été, on va le dire, a été joué dernièrement à Toulouse, dans notre ville, le 4 février exactement, à la médiathèque José Cabanis. Et la particularité, donc c'est la première fois qu'il était joué en conte et non pas en pièce de théâtre. Et la deuxième particularité, c'est qu'il a été joué pour la première fois dans le noir.
Merveilleuse expérience.
Oui.
Que celle de l'équipe de José Cabanis, de la ville de Toulouse,
qui a bandé les yeux en fait
tout le public qui est entré était comme s'il était non-voyant,
parce qu'il y avait aussi des non-voyants dans l'assistance.
Absolument.
Et pour que tout le monde soit
dans l'égalité,
ceux qui voyaient ont eu les yeux bandés.
Tous étaient guidés jusqu'à leur place, jusqu'à leur fauteuil, et assis comme s'ils étaient des non-voyants. Et nous aussi, on était dans le noir avec Pierre Blanchu, le musicien.
Voilà, donc vous êtes seul sur scène avec un musicien qui est Pierre Blanchu. Et donc vous vous lisez, enfin vous racontez. Vous racontez l'histoire, vous la vivez aussi. Hein,
totalement.
Et accompagné donc du musicien. Et donc c'était plongé dans la...
Il avait une loupiote pour voir ses instruments,
juste pour voir
parce qu'il y avait beaucoup de cordes dans
sûr.
Le centour.
Mais c'est tout était dans l'obscurité.
C'était extatique.
Alors vous faites aussi donc ça, donc c'est vous-même qui avez écrit donc ce conte, hein, l'arbre du désert. Vous avez aussi après vous faites des spectacles. Vous êtes vraiment très très polyvalent, Hamid.
Ben l'intermittence, l'artiste a besoin de créer. Il ne peut pas faire autrement.
Vous êtes créateur en fait au départ.
Créatif, je dirais. Créateur, c'est un peu prétentieux, mais créatif. Je fais dans ma vie ce que j'ai envie de faire. dans le sens, en restant dans l'esprit du plaisir, de la tolérance, du respect des autres, mais je puise dans ma vie, dans la vie autour de moi, pour faire du spectacle. Et ce spectacle, c'est comme si je préparais un pain et l'offrir aux gens pour qu'ils mangent.
Voilà, il y a l'idée du partage. Voilà, vous le faites uniquement dans ce but-là.
Avec mes camarades comédiens, actuellement Marie Striano, Sophie Chabert, Pierre Blanchu et d'autres rencontres, mais toujours dans ce sens de partage. Pour moi, le spectacle vivant, c'est une façon de donner à l'autre le moyen, la possibilité de voir qu'il y a de la lumière un peu là-bas pour sortir ou aller la caresser.
Pour sortir un peu du quotidien, pour sortir un peu de...
Le rêve, oui.
Voilà, c'est vous offrez une part de rêve...
D'urgence.
D'urgence. Donc dans les spectacles que vous avez écrits et montés, il y a Ali Baba, qui date de 2005, de l'année dernière.
Oui, depuis avril-mai 2005, nous avons créé avec Marie Striano, Pierre Blanchu, une pièce d'après l'histoire vraie d'Ali Baba, des Mille et Une Nuits. Il y en a qui contestent en disant que ce n'est pas les Mille et Une Nuits. Mais elle fait partie des Mille et Une Nuits, pour ma part, et on a monté dans une scénographie originale, pour ne pas dire très originale, ce spectacle, et qui plaît pour tout public à partir de 7 ans.
Voilà, c'est pour tout public. Donc il y a deux personnages, il y a vous et donc Marie, il y a un musicien, toujours Pierre, un technicien, donc c'est, voilà, il y a tout un décor, c'est en musique. Et alors la particularité, en fait, c'est un spectacle où le public est assis autour de la structure, sur des tapis marocains.
Il entre dans le décor.
Que vous avez disposé, voilà, il rentre directement dans le spectacle, dans le décor. Et donc chaque personne qui vient amène un coussin, amène son coussin pour s'asseoir de façon plus confortable par terre.
Hein, oriental ou occidental.
Voilà,
le coussin,
donc le coussin, voilà, tout à fait. Donc comme ça, il y a plein de coussins orientaux, occidentaux qui
absolument
se mélangent autour de votre décor.
Et à chaque fois, puisqu'on est à la 15e représentation à peu près, depuis au mois de mai, et il y a des chaises aussi pour ceux qui ne supportent ni l'Orient ni l'Occident.
Bon, enfin,
je taquine.
D'accord. C'est un spectacle qui dure à peu près 1h10, c'est Ali Baba, donc... C'est voilà, assez original. Mais vous faites d'autres spectacles, vous faites aussi des spectacles de rue. Avec un vélo indien, vous parcourez, on va dire, la France lors de festivals. Bon, plutôt quand il fait beau, c'est-à-dire à partir du printemps et tout l'été. Donc, votre vélo indien, votre rickshaw vous emmène...
Avec le rickshaw. Pierre. Voilà, le rickshaw est un outil qu'on a sorti il y a 2 ans dans le cadre d'Histoire d'un soir à Castres, Albi et Mazamé. Et ça a beaucoup plu. Depuis, on le propose pour les festivals.
Voilà, donc avec sur votre vélo indien, donc avec des instruments de musique. Donc voilà,
il est rempli à craquer d'instruments de musique de Pierre, mais aussi de tapis. Et on est sur ce vélo et on chemine. Et quand on arrive dans un endroit stratégique, un lieu reposant et inspirant, on se pose, on étale nos accessoires et on joue.
Ça fait penser au compteur des pays, justement, Maroc.
Absolument. Le crieur est là, le compteur est là.
Oui, tout à fait, qui parcourait comme ça les kilomètres et les kilomètres, en racontant une histoire en arrivant dans chaque village. Et alors, les gens se plaçaient autour d'eux. Et c'est ça.
Absolument.
Hein,
Mon rêve est de pouvoir le faire à Toulouse. Il y a tellement de cours intérieurs, il y a des espaces où l'on peut se poser et inviter les gens au voyage.
Je vous le souhaite et puis je serai la première à être parmi
que
le public.
Que la mairie de Toulouse nous entende.
J'espère. Donc comme spectacle, vous faites aussi Toile et Jean, une création donc de cette année pour les enfants. Donc il y a deux versions, il y a une version pour les petits de 35 minutes pour les 3-7 ans. Vous le faites essentiellement dans les écoles maternelles. C'est un mélange donc avec des comédies, bien sûr, mais aussi avec une artiste peintre, parce qu'il y a de la peinture, art plastique, du conte, du théâtre, de la musique. Enfin, c'est un vrai festival.
C'est une transversalité, l'idée qu'avec une artiste peintre, on peut travailler sur le conte, sur le théâtre, sur la musique, qu'il n'y a pas de discrimination, puisque vous avez parlé de discrimination tout à l'heure dans vos annonces.
Oui.
Il n'y a pas de discrimination entre les artistes, entre les arts.
Ouais,
et sans les arts. Un jeu de mots.
Sans les arts, oui.
L'idée, c'est de pouvoir faire quelque chose ensemble ouais. pour le plaisir des spectateurs, oui.
Ouais. Et donc, voilà, ça, c'est, donc ça, la, il y a deux versions, en fait. Il y a la version tout public et il y a la version pour les plus petits.
Voilà, on reste dans le côté poétique, naïf, et puis pour les adultes, où il y a quelque chose qui va un peu vers le merveilleux, vers la cruauté.
Oui.
Parce que le spectateur oui. aime la cruauté, malheureusement.
Oui, aussi, oui, oui, c'est vrai.
Mais bon, c'est exutoire.
Vous faites aussi du forum théâtre dans les collèges et les lycées, toute l'année scolaire, avec des comédiens et vous-même. Donc, selon la thématique fixée par le collège ou le lycée, donc ça peut être, il y a divers thèmes, hein, ça peut être les violences, la toxicomanie. Le but, c'est de faire jouer les jeunes
oui.
des classes que vous...
Moi, je crois beaucoup, en tant que conteur, à la parole. Dire les choses... Oser dire les choses.
Vous pensez que ça enlève le... Pas que ça enlève le problème, mais que ça peut le...
Ça lui montre qu'il y a possibilité de guérir. De travailler sur soi-même pour trouver une sortie, un apaisement, une communication, une communion avec les autres. Voilà. Donc, c'est faire parler les jeunes, oui. Parce que
oui,
malheureusement,
bon,
on
les jeunes,
écoute pas, mais on
aussi,
les fait pas parler.
Oui, puis bon, c'est vrai que ça part après pour faire des adultes épanouis et tolérants et bon, positifs. Et, voilà, ça part aussi de, bon, des enfants, et, mais aussi des adolescents. Donc
ce
des
sont
jeunes,
des adultes
donc,
de demain,
les,
bah, la société
oui,
de demain. Nous sommes de passage.
Il faut s'y intéresser, il faut leur donner aussi cette possibilité. Donc, voilà, c'est pour ça que vous faites aussi ce.
Et d'urgence, il faudrait faire ça pour que les jeunes se sentent un peu plus aimés, un peu plus respectés, parce qu'ils ont envie d'amour et ils ont envie d'être respectés aussi.
Oui, parce qu'on dit qu'il faut respecter les gens plus âgés, mais bon, il faut aussi qu'on respecte, nous, les gens plus jeunes.
Je trouve que nous, les adultes, nous sommes un peu intolérants, quelquefois avec l'enfant ou avec les jeunes.
Certainement. Donc on en arrive au projet donc de créer un spectacle à Empalo avec justement la parole du quartier Empalo à Toulouse sur le thème de la mobilité avec la parole des habitants du quartier et avec l'aide, enfin la participation donc d'une association qui s'appelle AIFOMEJ dont on va parler dans un instant. Et donc voilà, ça c'est un projet que vous avez qui vous tient à cœur et que vous.
Ben, l'association AIFOMEJ et le quartier d'Empalo ont été fidèles depuis 3-4 ans. Chaque année, ils me prennent un spectacle. Ils m'invitent dans leur quartier, une équipe très dynamique. Et cette année, ils me proposent d'avoir un regard sur les choses, sur le quartier, sur la parole des citoyens de ce quartier. Et nous allons nous installer prochainement.
Voilà, donc le 14 mars, on va le dire maintenant, donc 14 mars à 20h, sous chapiteau, dans le quartier d'Empalo, donc sur le au centre du quartier d'Empalo à Toulouse. Vous allez donc jouer, enfin, raconter l'arbre du désert, hein, justement.
Absolument, dans sa version.
Dans sa version longue, 1h10.
Voilà, sous chapiteau de la gîte.
Voilà, de la gîte théâtre, voilà. On va donner les coordonnées. Est-ce que vous pouvez nous lire un petit passage de l'arbre du désert pour donner à nos auditeurs une idée donc de ce qu'ils trouveront le mardi 14 mars?
Il y a un petit texte là que je pourrais lire, un petit extrait qui où le héros de l'histoire qui vit dans une ville grande et qui arrose un arbre chaque jour parce qu'il a trouvé quelque chose de merveilleux, il a vu que l'arbre de ce square appartenait à sa vision intérieure parce qu'il est devenu aveugle à voir que cet arbre était le même que celui du désert qu'il avait vu dans son image intérieure, et alors il décide de l'arroser. Puis il arrive et il rencontre une jeune fille qui est gardienne de l'arbre, et il fait un cauchemar dans son réveil, et il y a un petit extrait qui lui dit, dans son rêve, il y a un oiseau bleu qui lui entre dans l'œil et qui le fait pleurer.
D'accord.
Et l'oiseau lui dit, pourquoi les hommes d'aujourd'hui se lavent-ils dans un fleuve au milieu de chiens noyés? Est-il prudent de s'éloigner des bords de son rivage? Les hommes d'aujourd'hui étouffent et restent figés. Tristement résignés, ils referment leurs portes, alors que le jour est juste derrière. Ils hurlent que le feu du soleil les brûle parce qu'ils ont oublié la fraîcheur de l'ombre. Désorientés, certains se crucifient les yeux ouverts. dans ce désespoir. Ils cherchent leur partenaire, la lumière. Le monde va vers cet horizon. Même ceux qui ont les pieds attachés. Les aveugles sont-ils sur la voie? Un peuple qui ne se nourrit que de ses propres images ferme toute porte à ce voyage. Il dérive. Je suis songeur quand il rajoute « À quoi songes-tu ?» Je ne sais que lui répondre. « Songe à ta mort, » me dit-il. « Pour mieux comprendre le sens de la vie, car les fleurs n'ont jamais été aussi belles qu'à l'instant où elles savent qu'elles sont éphémères. »
C'est parfait, oui. C'est... Enfin, moi, je croyais que vous alliez continuer encore.
Là, je vois j'étais... le temps passer. Et puis,
j'étais sous le charme, là, j'écoutais, je croyais qu'il y en a... Mais oui, bon, bah, c'est le 14 mars à 20h, sous chapiteau, dans le quartier donc à Toulouse, à Empalo. On va donner un numéro de téléphone pour des renseignements complémentaires, donc à l'association elle-même AIFOMEJ, donc qui participe, qui organise voilà, le spectacle. Donc c'est le 05 61 53 45 62. Donc voilà, j'espère que tout le monde viendra vous écouter parce que c'est, moi je trouve que c'est bien et que
bah, c'est important que le que des associations dites sociales ou d'action sociale puissent inviter des spectacles, des professionnels du spectacle vivant et dans le quartier, parce que j'entends dire des choses sur le quartier, sur moi je découvre la ville de Toulouse, elle est merveilleuse et je crois qu'il faut se mélanger,
oui,
et que la culture aille de partout, même là où on ne l'attend pas.
Oui, bah oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est. J'espère que je souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup de monde à ce. De toute façon, j'espère vraiment qu'il y ait beaucoup de monde le 14 mars pour vous écouter. Et des gens
de
beaucoup de quartiers, oui. D'autres quartiers aussi.
La médiathèque était pleine lorsqu'on a joué José Cabanis.
Oui,
et il y a eu beaucoup de refus de gens d'ailleurs,
parce que
c'était complet.
Oui, c'était complet. C'était un auditorium de 200 personnes et il y a eu 196 personnes. Oui, oui, c'est vrai. Ça a été vraiment un grand succès. Et alors, on va peut-être rappeler vos coordonnées à vous, si les personnes qui ont écouté cette émission ont envie de vous contacter, que ce soit une école pour venir faire le spectacle Toilette Jean, ou pour un lycée ou un collège pour faire donc forum théâtre avec une thématique, ou d'autres.
Hein, ou Alibaba, ou l'Arbre du voilà, désert, ou d'autres créations.
Voilà, ou un projet cinéma hein, pour les ombres
cinéma,
bleues.
Oui.
Donc, votre numéro de téléphone, Hamid Berjouni, c'est à l'association Contact.
Acte.
Voilà,
donc, c'est vraiment, il y a le compte et l'acte dedans.
Voilà, et donc ça fait aussi Contact.
Absolument.
Pour le côté. Voilà, et alors c'est 05 63 51 13 45. 05 63 51 13 45. C'est à Castres, donc, là où vous.
À Castres, mais Castres est dans la France, donc
oui,
nous sommes en France.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il me reste à vous remercier, Hamid, d'être
merci.
Venu partager ce moment avec nous tous.
Merci, Claire.
Et à bientôt.
À bientôt.
Adiciat, et bonne semaine à tous.